bonjour.
Bonjour Martine.
Bonjour, et donc aujourd'hui je suis venue accompagnée de Patrick Fabre, qui est un représentant du mouvement des coquelicots pour notre département et qui participe aussi à ce mouvement à l'échelle nationale, donc qui fera la liaison peut-être, espérons-le, dans les prochains mois sur une évolution du mouvement. Alors nous sommes venus effectivement aujourd'hui parler de pesticides. Ce qu'on appelle aujourd'hui pudiquement les produits phytosanitaires. Alors, pesticides, c'est un mot qui est composé de deux petits items. Le premier, sida, qui est un mot latin qui signifie tuer, et peste, qui est un mot anglais qui signifie nuisible. Donc, voilà. Et ça comprend tous ces jolis noms qui se terminent par cides, effectivement, herbicides, fongicides, insecticides. Donc, ce sont des produits qui ont été découverts et utilisés depuis la dernière guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et donc qui ont permis en France une évolution de l'agriculture. Aujourd'hui, on se rend compte que, bon, il serait peut-être temps de remettre en question l'utilité de ces produits, et notamment au vu des derniers éléments qu'on peut avoir en termes d'études épidémiologiques, d'études de santé. La plupart, beaucoup d'entre eux, pour l'OMS, sont classés cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, perturbateurs endocriniens. Donc, effectivement, il serait temps de remettre en question cette utilisation. Il faut savoir qu'en France, nous sommes les deuxièmes utilisateurs de ces produits-là, derrière l'Espagne. Et ce qu'il faut savoir aussi, par rapport à la possibilité de diminuer ces produits, c'est qu'ils sont utilisés à 90% par l'agriculture et seulement à 10% par les particuliers, les collectivités ou les entreprises. Donc, pour nous, mouvement environnementaliste, il est important aujourd'hui de reposer cette question, dans la mesure où on sait qu'en France, on est aujourd'hui avec, et plus personne ne nie l'importance et l'impact de ces produits. On a aujourd'hui 82% des cours d'eau qui sont pollués. On a, par exemple, la disparition des oiseaux en milieu agricole, donc qui sont liés effectivement à la disparition des insectes. Donc tout ça est aussi dans la chaîne de la vie, les conséquences de certains produits, disparition d'une partie, d'un tiers des chauves-souris, de 80% des insectes. Vraiment, c'est quelque chose qui est aujourd'hui à remettre en question fortement. Alors, ça commence à être fait. On a quelques petites avancées, je dirais, mais on estime que c'est insuffisant. Par exemple, depuis 2012, on met en place des plans éco-phyto, et nous, à FNE, on participe et on donne des avis sur ces questions-là. Et pourtant, de 2009 à 2016, on est toujours en augmentation de l'utilisation de ces produits, c'est-à-dire il y a eu une augmentation d'utilisation et de vente de 12%, de plus de 12%. Donc ça veut dire que nos plans éco-phyto ne sont pas suffisants. Alors, et il y a un autre problème donc qu'on abordera aussi, qui est que ces produits-là présentent aussi en termes de risque pour la santé la problématique de l'effet cocktail ou de l'effet cumulatif. C'est-à-dire que quand on met plusieurs substances différentes, on ne sait pas comment les choses vont évoluer quel va être l'impact. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ça va être l'addition de l'impact de la 1 plus la 2, mais ça peut être cet effet cumulatif, un renforcement de la difficulté. Donc voilà, ça c'est la base sur laquelle aujourd'hui on peut à peu près être clair, stable et se dire, ça n'est pas remis en question sauf par ceux qui, effectivement, ont des intérêts forts en termes économiques. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, en fait, la population, les gens commencent à réagir vis-à-vis de ça et à manifester leur position. Donc, et j'ai souhaité aujourd'hui avoir un représentant de ce mouvement, qui est un mouvement vraiment issu de la population française, vraiment issu de gens qui n'étaient pas forcément engagés au départ et qui souhaitent aujourd'hui prendre parole et dire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent plus par rapport à ça. Et je crois que les consommateurs, puisque les pesticides, au bout d'un moment, ils se retrouvent dans notre assiette. Et il est important, alors certaines directives commencent à se mettre en place, poussées par l'Europe, mais je crois que les lobbies sont tellement forts au niveau des producteurs de produits, de ces produits, qu'il est important de bien signaler, de bien montrer, de bien se prendre en charge aussi, et notamment prendre la parole. Donc, alors, je vais peut-être me taire un petit peu et laisser Patrick Fabre nous expliquer un peu comment les choses se sont engagées et où on en est aujourd'hui. À la fois à l'échelle nationale, mais aussi au niveau des actions locales du département, puisque c'est quand même un mouvement qui est extrêmement important dans cette espèce de territorialisation totale.
Bien, et bien bonjour et merci de m'avoir invité. Donc je vais vous parler un petit peu en effet de ce mouvement des coquelicots, de sa création déjà. Il a donc été créé l'année dernière, au mois de septembre 2018, par un groupe d'une quinzaine de personnes, parmi lesquelles certains sont plus connus que d'autres, et notamment, je pense à Fabrice Nicolino, qui est un écrivain spécialiste de l'environnement. Il est également journaliste, notamment à Charlie Hebdo, et d'ailleurs, il avait été gravement blessé lors des attentats dans ce journal. Et il a écrit déjà de nombreux ouvrages. Je pense, par exemple, à un ouvrage qui s'appelle « Un empoisonnement universel, comment les produits chimiques ont envahi la planète ». Un autre dont le titre était « Qui a tué l'écologie ?» Un autre encore « Pesticides, révélations sur un scandale français », etc. Et l'un des deuxièmes fondateurs de ce mouvement des coquelicots s'appelle François Veyrette. Il est fondateur d'une association de défense de l'environnement qui s'appelle Génération Future. Il a écrit lui aussi de nombreux ouvrages sur le sujet, par exemple « Le vrai scandale des gaz de schiste », etc. Et avec Fabrice Nicolino, le livre que j'avais cité tout à l'heure, « Pesticides, révélations sur un scandale français », que j'avais déjà cité. Et au moment du lancement de notre mouvement, ces deux auteurs se sont réunis pour rédiger un livre dont le titre reprend exactement le titre du mouvement, c'est-à-dire « Nous voulons des coquelicots ». Et plutôt qu'un livre, d'ailleurs, ils préfèrent qu'on parle de manifeste, c'est-à-dire en fait une proclamation qui est destiné à attirer l'attention du public sur quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce dont on vient de parler en introduction, c'est l'ensemble des pesticides de synthèse qui empoisonnent la planète depuis trop longtemps et de plus en plus.
Alors c'est vrai que je pense qu'il est important symboliquement d'avoir choisi ce titre au mouvement. C'est vrai que les coquelicots, on a tous le souvenir de champs de blé avec ces petites taches rouges et qui avaient complètement disparu ou pratiquement partout, qui sont aujourd'hui absents dans les cultures qui sont haut de gamme, j'allais dire, et qu'on peut retrouver occasionnellement. Et je pense que le fait de signaler et de dire aussi cette fleur sauvage et le symbole de la destruction d'une partie du vivant, c'est extrêmement fort comme appel de communication. Donc je pense que ça, c'est important que ça ait été une petite, cette petite fleur qui soit mise en avant de oui. cette façon-là.
Cette petite fleur qui paraît extrêmement fragile et délicate, qui est effectivement qui disparaît totalement lorsqu'on utilise des pesticides, mais qui revient facilement aussi, qui présente un fort pouvoir de résilience. Si on arrête d'utiliser des pesticides, la petite fleur reviendra. Et d'ailleurs, on a cette année imaginé deux actions importantes, dont l'une est, et elle commence à rentrer en compte en ce moment, c'est-à-dire un refleurissement de la France. Donc on propose aux gens qui adhèrent à notre mouvement de planter dans leur jardin, dans des endroits publics s'ils en ont l'autorisation, des fleurs. Ça peut être des fleurs de coquelicot, mais ça peut être aussi des fleurs de toute autre chose, de façon à ce qu'on refleurisse la France. Et on a eu l'agréable surprise à la fin de la semaine dernière de voir que la mairie de Paris avait octroyé au mouvement des coquelicots un espace de 8000 m², c'est quand même presque un hectare, hein, c'est pas mal, sur l'esplanade des Invalides, où il y aura deux grandes banquettes qui nous seront offertes pendant le temps où ce mouvement va perdurer, de façon à pouvoir y planter des fleurs. Et évidemment, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le maximum de coquelicots présents sur cet espace. Ça sera un beau symbole. Et on remercie la mairie de Paris d'avoir eu cette initiative et cette idée.
Alors peut-être qu'on pourrait suggérer aux mairies de notre département d'envisager aussi de mettre à disposition certains petits bouts de terrain ou certains petits lieux qui pourraient permettre à chacun de s'exprimer aussi de cette façon-là, plus localement.
Tout à fait. D'autant plus que depuis quelques années maintenant, dans les espaces publics, on n'autorise plus l'utilisation des pesticides, justement. Et depuis le 1er janvier de cette année, la vente de ces pesticides aux particuliers est également prohibée. Donc on se demande pourquoi il y a d'un côté ces interdictions qui manifestement découlent de la dangerosité de ces produits, je pense au glyphosate en particulier, qui est le plus connu d'entre eux, et d'un autre côté qu'on laisse et qu'on repousse toujours systématiquement l'échéance à laquelle on devra un jour quand même se résoudre de dire « nous voulons l'interdiction des pesticides ». Nous, c'est le but de notre mouvement, on l'a inscrit dans un appel et ce n'est pas négociable. Parce que de toute façon, interdire un pesticide parmi les autres, ça ne sert à rien. On sait très bien qu'il sera remplacé rapidement par un autre encore plus virulent que le précédent et c'est une course sans fin. Et en fait, c'est une course au profit, il faut bien le concevoir, les lobbies des grands laboratoires phytopharmaceutique, puisque maintenant il faut savoir que Bayer a racheté Monsanto. Donc Bayer, il est des deux côtés de la chaîne, c'est quand même assez extraordinaire. Il vend des produits qui sont des produits de mort. On l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit en introduction, avec ce terme SID qui termine le nom des produits, pesticides, herbicides, insecticides. Moi j'ai envie de rajouter homicide et génocide, hein, parce que c'est à cela qu'on tend. Hein. Toutes les études actuelles par les grands scientifiques montrent que si on n'y prend pas garde, et ceci très rapidement, on est en train d'assister à la sixième extinction des espèces vivantes sur Terre. Et parmi ces espèces vivantes sur Terre, il y a l'humanité, il y a l'homme. Parce que la Terre, elle s'en remettra. La Terre, elle a 4 milliards et demi d'années. Elle s'est déjà remise de 5 précédentes extinctions. Oui. La Terre survivra à ça. Mais l'homme, peut-être pas. Certainement pas. Et donc, il est temps d'agir maintenant.
Alors c'est vrai qu'il y a eu durant le mois de février une consultation publique sur ces questions-là qui a été organisée par l'État et sur laquelle à France Nature Environnement nous avons contribué et posé des propositions. Et donc notamment concernant cette mainmise des producteurs, des labos sur le fonctionnement de l'agriculture. Puisqu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de séparation entre le vendeur du produit et celui qui conseille l'agriculteur. C'est-à-dire qu'en fait, les labos sont à la fois les vendeurs de ces produits-là et ce sont eux qui conseillent sur l'utilisation les agriculteurs. Donc notre demande est dans un premier temps qu'il y ait une séparation totale entre la vente et le conseil, de façon à ce qu'effectivement il y ait une indépendance et notamment que les vendeurs n'aient pas de part dans le capital des sociétés de conseil. Donc là, on a au contraire très, très souvent une superposition des deux. Et qu'il y ait aussi, comme c'est le cas pour les médicaments, une vente sur ordonnance, puisque avec une prescription, et non pas une vente comme ça qui soit faite comme chacun l'entend. Et qu'il y ait des pénalités qui soient mises en place lorsqu'il n'y a pas de respect des engagements qui sont pris, et notamment qu'il y ait aussi que ces pénalités servent à faire des actions en direction d'une réduction des produits et de leur utilisation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur le plan de l'agriculture, certains disent que ce n'est pas possible de faire autrement, il nous faut du temps. Enfin bon, on repousse toujours pour des raisons de technique. Mais on sait très bien que la conversion est possible, qu'il y a des solutions et que certains agriculteurs ont fait ce pas. Donc, cela pourrait se développer à condition, effectivement, que les consommateurs et que nous, avec nos assiettes, nous puissions peser sur les choix et sur la balance.
Ben oui, parce qu'en fin de compte, c'est quand même nous, les consommateurs, on emploie d'ailleurs de plus en plus le terme de consommateur, ce sont nous qui avons le pouvoir de faire en sorte que les choses changent. Nous l'avons compris au niveau des instances politiques de ce pays, que ce soit le président de la République, que ce soit les ministres et que ce soit même les députés, on n'obtiendra pas, si on ne pousse pas à la roue, l'interdiction de ces produits qui sont des produits de mort. Il ne faut quand même pas oublier que le laboratoire Bayer, qui a donc repris Monsanto, c'est quand même lui qui avait inventé le gaz moutarde à la guerre de 14, c'est lui qui avait inventé le Zyklon B, qui a été utilisé aux fins que l'on sait pendant la guerre de 40 pour l'extermination des Juifs. Enfin bref, les produits qui sont vendus par ce laboratoire ne sont pas anodins. Et quand on voit que d'un autre côté, c'est aussi un laboratoire pharmaceutique qui vend des produits pour soigner des gens, on se dit qu'il y a là une espèce de collusion qui est assez grave, assez dramatique. Hein. Les pesticides ont commencé à être introduits à la fin de la guerre. Hein. Le premier qui a été utilisé, c'est le DDT, dont on a obtenu l'interdiction en 1970. Et pourtant, ce produit qui a été interdit depuis maintenant 40 ans, quand on fait des analyses, on en retrouve encore des traces. Oui. Les journalistes de Charlie Hebdo, justement, lorsque le mouvement a été lancé, se sont prêtés à une expérience, c'est-à-dire qu'ils ont donné de leurs cheveux pour faire une analyse de toxicité. Et dans les cheveux de tous les journalistes, on a retrouvé des produits divers et variés, et notamment du DDT, qui pourtant est interdit depuis 1970 en France, et dans le monde aussi d'ailleurs. Donc ça paraît incroyable que ces produits-là restent ainsi présents pendant des années, et parfois des siècles. Je pense au chlordécone qui a été utilisé à grande échelle dans les Antilles françaises. Oui. On estime qu'il faudra à peu près 400 ans pour qu'il disparaisse du sol. Et on sait bien les catastrophes qu'il a créées, notamment par l'introduction de maladies telles que le cancer de la prostate. Les Antilles détiennent le triste record du nombre de cancers de la prostate. Et quand après on entend le président Macron, dans une intervention récente avec des élus ultramarins, dire « il ne faut pas dire que le chlordécone est... » et cancérigène parce que ce n'est pas vrai et cela fait peur aux populations, ben il faut le dire parce que c'est la réalité. Et en disant le contraire, on ment ouvertement. Donc tout ça, c'est vraiment très grave. Donc ça nous a conduit effectivement à lancer ce mouvement. Et ce mouvement s'est cristallisé autour d'un appel que je vais me permettre donc de lire. C'est assez court. Donc le titre est « Nous voulons des coquelicots » et on a compris pourquoi on avait choisi ce symbole de la fleur des coquelicots. Pour une vie sans pesticides. Et on dit ceci, les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, des maladies de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place, il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays, la nature y est défigurée, le tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans, la moitié des papillons en 20 ans, les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards, les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies, les fleurs sauvages deviennent rares, Ce monde qui s'efface est le nôtre. Chaque couleur qui succombe, chaque lumière qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots. Rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus. À aucun prix, nous exigeons protection, nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides en France. Assez de discours, des actes.
Voilà, donc ça c'est le point de départ, le grand manifeste. Alors on peut peut-être faire une toute petite pause avec la chanson qui est issue de ce mouvement, et puis on reprendra ensuite.
Avez-vous mesuré le temps? Avez-vous mesuré le vent? Avez-vous mesuré la nuit, la vie? Viens avec moi, mon vieux pays. Le jour se lève, levons nos rêves. Je veux faire l'amour des enfants qui se baigneront dans les rivières en oubliant. Viens avec moi, mon vieux pays. Le vent me rêve, le vent se lève aussi.
J'invite tous vos auditeurs à aller regarder le clip de cette chanson. Je le trouve très, très beau. Et notamment, je trouve qu'il donne vraiment un élan, un espoir. Et je crois que c'est... voilà, c'est peut-être de ça qu'il faudrait parler maintenant.
C'était le but.
Levons-nous et allons-y.
Voilà, exactement. Donc cette chanson, elle a été enregistrée par Émilie Loiseau. C'est une chanteuse qui nous a fait l'amabilité d'enregistrer ce titre spécialement pour le mouvement des Coquelicots. Et d'ailleurs, elle reverse tous les droits qu'elle peut toucher de cette diffusion au mouvement des Coquelicots. Elle est très impliquée dans ce mouvement. Et c'est vrai que si on écoute les paroles de cette chanson, elle y parle à un moment donné de la fleur rouge du printemps, évidemment. On comprend qu'il s'agit des coquelicots, mais surtout, elle parle d'appel, viens avec moi mon vieux pays, c'est-à-dire que les gens prennent enfin en main leur parcours, de manière à faire évoluer les choses dans le bon sens. Et de cette chanson a été tiré effectivement un clip qui a été tourné dans le département du 04. On était très fiers que ça ait été choisi. On l'avait proposé, puis c'est ce qui a été retenu. Le réalisateur de ce clip n'était autre que Cyril Dion, qui est bien connu, puisqu'il a réalisé un film notamment qui a eu un franc succès, un documentaire plus exactement, qui s'appelle Demain. Il y a eu une suite qui s'appelle Après-demain. Pour Demain, ils ont reçu d'ailleurs un César du meilleur film documentaire, si j'ai bonne mémoire. Et donc, on a eu le grand plaisir de recevoir toute cette équipe pendant deux, trois jours. Ils ont tourné à Revesse-des-Brousses, ils ont tourné à Fontienne, ils ont tourné à Cruz, enfin au pied de la montagne de Lure, puisque c'est de là que c'est parti. Et ça permet justement aux populations locales de se retrouver dans cet appel, de se retrouver dans ce mouvement. Qui fonctionne d'une manière très horizontale, avec des points de repère régulièrement, tous les premiers vendredis de chaque mois, à 18h30. On invite les gens à se réunir devant les mairies de leur village ou ville, alors de façon à pouvoir se rassembler, se connaître, imaginer des actions. Au départ, l'essentiel a été un peu de se dénombrer. On a été surpris dès le premier vendredi qui a suivi la déclaration des coquelicots, c'est-à-dire dès le 4 ou le 5 octobre, je ne me rappelle plus le jour exact, peu importe. Il y avait déjà eu plus de 500 rassemblements dans la France. On avait trouvé que c'était une réussite magnifique et tous les mois, ça a augmenté très régulièrement jusqu'au mois de décembre. En janvier, il y a eu un petit... C'était le 3 ou le 4 janvier, juste
c'était
après les fêtes.
C'était un peu tôt, peut-être, oui.
Donc, c'était un peu plus difficile. Et puis là, à nouveau, on a plus de 700 rassemblements en février et en mars. Et donc, ça permet aux gens de se rencontrer. Et on constate que ça crée vraiment une dynamique. Donc, dans le secteur du 04, on a eu des rassemblements qui se tiennent à Saint-Étienne-les-Orgues, à Manosque, à Pierre-Vert, à Oraison, à Digne aussi, bien entendu, à Cruis, à Montlo, dans la Vallée du Jabron, j'en oublie évidemment et ne m'en voudront pas. Et on a une actualité qui est facile à découvrir à ce sujet. Il y a un site qui est très sympathique, qui est très bien fait, qui évolue en permanence, qui s'appelle Nous voulons des coquelicots en un seul mot.org. Et sur ce site, on trouve notamment une carte de France avec des petits points rouges, bien entendu, qui symbolisent les endroits où on va avoir la prochaine fois des rassemblements. Donc si on va sur ce site et si on cherche cette petite carte, vous verrez que dans le secteur du 04, il y a déjà un certain nombre de points qui ont été sélectionnés avec des adresses, avec ce que les gens proposent. Et tous ceux qui viennent à ces réunions sont appelés à proposer justement quelque chose. Ce n'est pas un mouvement qui se veut statique. Ce n'est pas une pétition qu'on signe une fois pour toutes en se disant « Bon, allez, on a fait notre travail, on laisse ça de côté. » Non, on veut que les gens s'impliquent et qu'ils signent justement massivement, soit sur le site internet que j'ai indiqué tout à l'heure, nousvoulonsdescoquelicots.org, soit directement sur des feuilles papier que nous mettons à leur disposition, aussi bien d'ailleurs lors des rassemblements que dans certains magasins bio. Je pense au Biocop, par exemple, qui ont ces feuilles à disposition. Et ça permet ainsi de faire connaître le mouvement, de le faire s'étendre. Et en fait, on demande à chaque personne qui signe de faire signer à son tour aussi. Ça n'est pas, encore une fois, un mouvement... quelque chose de statique, mais au contraire, quelque chose, un mouvement qui se construit en permanence. Et on appelle toutes les personnes à venir nous écouter, nous rejoindre, débattre avec nous, par exemple, vendredi, celui-là, pas le premier vendredi du mois d'avril, où il y aura un rassemblement, mais ce prochain vendredi, donc le 29 mars, on organise à Saint-Étienne-les-Orgues une soirée avec la projection d'un film qui s'appelle « Des abeilles et des hommes », avec un apiculteur qui sera présent, qui s'appelle André Combe, qui est assez connu dans le secteur. Et ensuite, après ce film, qui est magnifique, on pourra justement débattre avec des agriculteurs. C'est la mairie de Saint-Étienne, d'ailleurs, qui nous a proposé cette soirée. Et on apprécie beaucoup qu'il y ait ce partenariat qui se fasse au niveau local avec certaines municipalités. Ça aussi, ça peut permettre de faire évoluer notre mouvement dans le bon sens.
Oui, parce que en fait, aujourd'hui, donc il y a ces actions peut-être plus permanentes de travail sur la position qu'on peut prendre par rapport à certains textes, par rapport à certaines lois. Donc nous, à FNE, nous travaillons sur ces domaines-là. En septembre-octobre 2018, nous avons porté plainte à la suite de l'empoisonnement qui avait eu lieu donc dans le Maine-et-Loire, les intoxications au méthane sodium à cause des producteurs de, enfin, des productions de, d'un certain nombre de champs de mâche. Bon, bref. Donc, aujourd'hui, ce qui est important aussi, c'est de voir comment, de façon plus locale, il peut y avoir une action et il peut y avoir un impact. Donc, le travail avec les agriculteurs peut démarrer aussi localement. La discussion, la négociation peuvent se faire localement. Et donc, c'est là où chacun a une responsabilité à son échelle, dans sa commune, sur son territoire. Et dire on ne veut plus de produits qui polluent notre rivière, bien commençons par réfléchir comment localement on peut aller vers ça, comment localement on peut aider quelqu'un à changer de pratique, dans certains cas faire pression pour accélérer les choses, discuter aussi et montrer que les labos existent et sont des puissants lobbies, mais qu'on n'est pas obligé d'être prisonnier de ces systèmes-là et qu'on peut, à partir de son propre territoire, avoir une action concrète et qui ait un impact. Donc l'idée pour nous et pour moi, en invitant M. Fabre, c'était d'essayer de voir aussi comment, localement, les choses pouvaient s'agréger un peu plus, comment on pouvait travailler en partenariat, s'organiser pour que l'impact soit de plus en plus fort et s'étende progressivement. Donc, je crois que l'élan, il existe. Les gens se sont rassemblés. Maintenant, il faut que peut-être ces petits groupes, voilà, et que ces petits groupes trouvent leur solution locale, trouvent les moyens d'agir.
Voilà, privilégier les circuits courts. Là, notamment à cette soirée dont je viens de parler tout à l'heure, on a invité des agriculteurs locaux à venir nous exposer. Nous parler de leur production. Et il faut bien comprendre aussi, parce qu'au départ, ça a été mal ressenti, je pense, par certains agriculteurs qui utilisent encore, et certains largement, des pesticides. On n'a pas d'a priori contre ces agriculteurs. On sait bien qu'ils sont eux-mêmes victimes, les premières victimes d'ailleurs, oui. Puisque dans les maladies qui sont liées à l'utilisation des pesticides, il y a notamment des cancers qui sont reconnus pour certains d'entre eux comme des maladies professionnelles. Et finalement, les agriculteurs ont à ce moment-là la double peine, c'est-à-dire que non seulement ils sont contraints d'utiliser des produits et de plus en plus de produits parce que la terre est morte, on est donc obligé d'apporter systématiquement des intrants, ce qu'on appelle des intrants, pour permettre aux cultures de pousser, tout à fait. Et d'un autre côté, quand ils ont des maladies liées à l'utilisation de ces produits, ce ne sont pas les laboratoires pharmaceutiques et les laboratoires tels que Monsanto ou Bayer qui payent pour les soigner. C'est eux-mêmes, par l'intermédiaire de leur mutualité agricole, qui doivent encore une fois subvenir à ces besoins. Donc ils sont vraiment, de tous les côtés, les premières victimes. Donc nous, on est tout à fait conscients de cela. Il n'y a rien contre eux. On appelle ces gens-là à venir parler avec nous, à venir nous exposer leurs problèmes et à essayer de leur proposer des solutions, parce qu'il y a des solutions. J'ai vu récemment une émission très intéressante qui s'appelle Envoyé spécial, qui est bien connue sur Antenne 2, animée par Élise Lucet, où il y avait en parallèle deux agriculteurs, l'un qui était converti au bio et l'autre qui utilisait des méthodes anciennes. On s'est aperçu que tous les deux, ils s'en sortaient parfaitement. Et même celui qui était passé au bio s'en sortait peut-être même mieux, évidemment, en travaillant la terre autrement, c'est-à-dire en travaillant la terre, tout simplement. Et non pas en déversant des produits mortifères.
Voilà, donc je pense que pour le prochain rassemblement, la semaine prochaine, il faudra effectivement être de plus en plus nombreux et de plus en plus étendus. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui va, je pense, peser sur la suite. Le fait de pouvoir montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un mouvement parisien qui se passe sur les Champs-Élysées ou au pied de la Tour Eiffel, mais que c'est quelque chose vraiment qui existe partout et que cette demande, elle existe dans les villages de chez nous, qu'elle existe sur le département et qu'il faut la prendre en compte, que nous ne sommes pas à l'abri et que nous ne sommes pas protégés de tout. Chez nous aussi, il faut agir, il faut se positionner et se montrer.
Et j'ajouterais qu'on a déjà quand même recueilli presque 600 000 signatures en quelques mois. On s'est donné d'ailleurs 2 ans pour que ce mouvement aille dans le sens que nous souhaitons, de manière à ce que ça ne soit pas encore une fois quelque chose de ponctuel dont on parle beaucoup et qu'on oublie aussi vite. Il a commencé en septembre 2018, il durera jusqu'en septembre 2020. Donc on s'est donné une longue période pour justement rencontrer des gens, pour trouver des solutions qui peuvent venir de tout un chacun. Et on appelle les gens à venir nous rejoindre chaque fois qu'ils le peuvent lors de ces rassemblements. Et donc j'ai expliqué tout à l'heure comment ils pouvaient trouver les endroits. Et puis s'ils n'en trouvent pas, ils peuvent les créer eux-mêmes. Sur le site dont j'ai parlé tout à l'heure, ils ont toutes les aides possibles, toutes les instructions qui leur permettent de créer leur propre mouvement de rassemblement le premier vendredi du mois qui va suivre.
Alors, on précise qu'Adigne, c'est devant la mairie, s'est déplacé devant le kiosque.
Oui, oui. Voilà. Mais bon, que le kiosque c'est est pas bien loin quand même.
Oui, c'est tout à fait à côté.
Voilà, alors peut-être terminer avec notre calendrier pour le mois qui vient. Bon, j'ai pas beaucoup d'événements à signaler, mais simplement donc France Nature Environnement 04, nous avons notre assemblée générale samedi, le 30 mars, qui se passera à la Thomasine, à Manosque. Et nous avons l'après-midi l'intervention, un atelier compost, théâtralisé. Donc c'est une intervention, une animation qui est créée par une de nos associations adhérentes qui s'appelle le Colibricole et qui travaille sur Valensole. Et donc c'est axé sur le compostage, les déchets verts. Enfin, ils interviennent sur ces questions-là. Donc là, ce sera une petite animation. Donc ça se passera à la Thomasine, donc qui est la maison de la biodiversité au nord de Manosque. Alors, je ne pourrais pas vous expliquer exactement le chemin. C'est un peu compliqué pour y aller. Faut regarder un peu sur la carte.
C'est sur les hauteurs et c'est super beau, en tout cas.
C'est très beau et c'est un lieu qui est quand même assez connu de ceux qui sont proches de la nature et qui plantent. Enfin, il y a souvent des événements qui sont organisés. Donc, c'est axé biodiversité, cette maison-là. Et nous avons le 4 avril à Villeneuve, nous faisons un appel à bénévoles pour nous aider sur un chantier qu'on appelle butinerie. Donc là, on est en train de créer un lieu qui va être un lieu pédagogique sur aussi donc, la biodiversité avec un axe abeilles et sauvegarde des abeilles. Donc on va avoir tout un tas d'événements progressivement qui vont être organisés là. Donc l'idée, c'était d'avoir un lieu fixe où on puisse progressivement mettre en place un certain nombre d'événements pédagogiques sur la question de la biodiversité en général. Voilà, en gros, ce qui est à venir. Ensuite, on aura un mois de mai beaucoup plus chargé. Mais pour avril, voilà pour ça.
Je peux rajouter juste quelque chose, si vous me permettez. Je voudrais, parce que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, bien insister sur le fait qu'on appelle beaucoup les jeunes à venir avec nous, à prendre en main leur destin, parce que finalement, c'est eux qui seront confrontés aux problèmes qu'on refuse de solutionner maintenant si on continue dans cette voie. Et j'étais très fier, il y a une dizaine de jours, le vendredi 14, je crois, avril, où il y a eu... Mars, où il y a eu à Digne, justement, un rassemblement de jeunes gens, de jeunes lycéens, de jeunes étudiants. J'y suis allé avec eux et c'était vraiment assez formidable de voir l'élan et de voir la manière dont ils nous ont accueillis. Nous étions quelques adultes, entre guillemets, parce que parfois je me dis qu'ils sont peut-être plus adultes, eux, que certains hommes politiques qui ne savent pas prendre les décisions courageuses qui s'imposent. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Si ces jeunes gens prennent en compte et comprennent que eux peuvent faire en sorte que les choses changent, alors elles changeront.
Au revoir.
Au revoir et merci beaucoup.
Merci.